Chapitre 11e. Un peu plus tard, quand tout le monde se fut couché, je réfléchis à cette scène. J'étais étonné que des hommes jeunes, éloignés de leur famille, de leurs intérêts, qui semblaient revenus à une vie naturelle, puissent avoir tant de mesquinerie. Jamais je n'aurais pensé que la jalousie, l'envie, l'ambition puissent continuer à jouer un si grand rôle. Il m'apparaissait que la situation était plus confuse qu'avant. J'avais été maladroit, car c'est être maladroit que de revenir trop souvent sur le même sujet. À force de m'entendre dire toujours la même chose, on ne me prenait plus au sérieux, si bien que maintenant je ne pouvais plus espérer rien obtenir de mes camarades. J'avais baissé dans leur estime. On m'avait toujours écouté parce qu'on m'avait attribué une intelligence que je n'avais pas. Maintenant, parce que j'avais trop parlé, on se rendait compte que j'étais un homme comme les autres. Le lendemain, au travail, le hasard me plaça à côté des deux rambolitains, Mimiag et Boitard, qui avaient toujours l'air de se croire beaucoup plus que les autres. Mimiag avait une petite moustache noire avec un embryon de pointe. Il demandait toujours du feu aux sentinelles et les remerciait d'un salut à la parisienne en portant un doigt au calot. Boitard avait une grosse tête rougeaude avec des yeux d'alcoolique et l'air docile d'un homme de main qui vous protégera ou vous assommera selon l'ordre qu'il recevra. Je leur dis qu'on ferait bien de s'évader, rien de plus. Le petit posa sa pelle et, me regardant dans les yeux, me répondit « Est-ce que tu vas nous emmerder encore longtemps ?» Je lui tournai le dos et allai m'asseoir sur un madrier. Je ramassai tout ce que je pus trouver de brindilles de tabac dans ma poche, autant ce qui ressemblait à des miettes de pain, et je roulai une cigarette. Je voyais la sentinelle aller et venir à une centaine de mètres, sur le chemin plat, embrassant du regard l'étendue sur laquelle nous étions répartis parmi les cabines d'aiguilleurs, les wagons, les matériaux, les tas de pierres. Je me disais qu'il était ridicule de m'en tenir à un plan rigide. J'y avais trop pensé. Pourquoi ne pas profiter d'un moment d'inattention, ou plutôt de lassitude générale, pour fuir sans que mes camarades ou les sentinelles s'en aperçussent? Si je le voulais vraiment, un moment ou un autre, je devais pouvoir le faire. Mais la petite oasis formée par notre chantier, une fois quittée, c'était la plaine infinie. Pas un arbre, pas une maison. Comment se sauver dans ces conditions sans être vu? Sauter dans un camion. Mais les sentinelles, quoique très gentilles, ne m'inspiraient pas confiance. C'étaient de solides gaillards qui plaisantaient avec nous, qui nous donnaient des cigarettes et quelquefois de quoi manger, qui avaient au fond pitié de nous, mais qui, lorsqu'il s'agissait de la consigne, ne connaissait plus personne. Ils m'auraient vu sauter dans un camion, qu'ils n'auraient même pas fait signe au chauffeur de s'arrêter. Ils auraient tiré sur le champ. À partir de ce jour, je n'adressais plus la parole aux deux rambolitains. Rien n'est plus désagréable que ces broutilles quand on est obligé de vivre ensemble. À chaque instant, j'étais obligé de faire des crochets pour ne pas me trouver nez à nez avec eux, ce qui donnait lieu à des scènes grotesques. Une semaine plus tard, un incident singulier se produisit à cause d'eux. Depuis longtemps déjà, mes camarades considéraient Mimiag et Boitard comme des brebis galeuses. À différentes reprises, nous avions reçu par leur faute des observations de la part des Allemands. Mes camarades n'aimaient pas ça. Ils s'en trouvaient toujours pour nous faire la leçon, pour nous reprocher de manquer d'éducation, pour remarquer avec accablement que c'était toujours la même chose, que nous ne savions pas reconnaître ce qu'on faisait pour nous, etc. Ceux qui se plaignaient ainsi échangeaient avec les gardiens des réflexions, des regards d'intelligence, afin de montrer aux sentinelles qu'ils leur donnaient raison, qu'ils étaient tout à fait d'accord avec elles pour trouver que les deux rambolitains étaient des individus peu intéressants. Quant à moi, je me gardais bien de me mêler de ces histoires. J'avais toujours eu en horreur ces sortes d'amitiés mystérieuses qui se forment entre les pires ennemis et que les Allemands savaient si bien faire naître. Cela me dégoûtait de me trouver d'accord avec ces derniers, ne serait-ce que sur un seul point. Et même si cet accord devait demeurer secret et nous faire bénéficier de certains avantages, malheureusement, mes camarades, eux, n'avaient pas les mêmes scrupules. Un soir, Mimiag et Boitard durent mettre une telle mauvaise volonté à exécuter un ordre que les gardiens, encouragés par l'approbation tacite de tous, se fâchèrent tout rouges. Il se passe alors ceci de singulier, c'est que ces deux hommes, qui envoyaient chier tout le monde dès qu'il s'agissait de s'évader, qui paraissaient donc accepter leur sort, se mirent à répondre grossièrement aux sentinelles et même à les menacer. Le lendemain, ils étaient envoyés dans un camp de discipline. Le bruit courut plus tard qu'ils avaient été passés par les armes.